J'habite au 41 rue Madame de Sévigné. Donc il y a une petite allée. On arrive à droite, il y a la porte d'entrée, on rentre. En face, il y a la salle de bain. Moi, je continue. À droite, il y a la chambre de mes parents. Et à gauche, il y a ma chambre avec mon frère. Ah ouais, j'avais acheté une guitare aussi. J'avais une guitare parce que mon pote, il draguait avec sa guitare. Et je me suis dit, tiens, ça doit être un bon plan pour draguer.
Et nous voilà au seuil de la chambre d'ado de Vicage Dorasso, le footballeur venu du Havre qui a joué pour l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, le Milan AC, le PSG. C'est lui qui a offert la Coupe de France au PSG face à l'OM en inscrivant ce but extraordinaire à 30 mètres. Il a vécu une Coupe du Monde aussi avec le maillot français en 2006 dans l'équipe de Zinedine Zidane. Vicage Dorasso est notre invité jusqu'à 11h. Il nous racontera ses rêves adolescents, le football, le rock, les premières amours peut-être. Bienvenue dans sa chambre d'ado. Bonjour Vicage Dorasso.
Bonjour.
Alors votre adolescence, vous la fixez au lycée en gros, à la fin des années 80, quand vous rasez votre moustache et enlevez votre appareil dentaire.
Oui, quand je rentre au lycée vraiment, ça arrive au même moment. J'arrive avec le duvet là au-dessus, sur la moustache, l'appareil dentaire, pas trop d'acné, je suis plutôt assez chanceux. Et tout de suite, j'ai dit à mon père, faut que je me rase, je peux pas continuer comme ça. Quoi. Et j'ai enlevé mon appareil dentaire, je suis pas allé au bout du traitement.
Ah bon?
Ah ouais, je voulais plus quoi. Parce que c'est pas comme aujourd'hui. Moi j'ai deux filles aujourd'hui, elles ont un appareil dentaire, tout le monde en a un et c'est plus tôt. C'est 5e, 4e. Nous c'était très rare et c'était 15, 16, 17 ans.
Et puis on voyait que ça. Hein.
Ouais, c'est gênant parce que à 6e, 5e, on n'est pas trop. C'est pas encore les garçons, les filles. Seconde, c'est que ça quoi. Donc c'est plus gênant. Quoi.
Et votre chambre d'ado, elle ressemble à quoi?
Bah, je la partage avec mon frère.
Le grand frère?
Ouais, avec mon grand frère. Donc, y a rien, quoi. C'est une autre culture, hein, chez moi. C'est la culture indienne, culture mauricienne. Y a pas de poster au mur. Moi, je suis pas un fan de rock'n'roll. Je lis pas de BD. Je viens d'un quartier. J'habitais dans un HLM. Y avait rien, quoi. Rien. C'est-à-dire, même pas une boulangerie qui fait des croque-monsieur, quoi. Comme aujourd'hui, y a. Non, y a rien.
Alors, vos deux parents sont mauriciens,
oui.
Grands-parents indiens, c'est
oui.
Ça. Votre père travaille sur les chantiers navals,
oui.
Tuyauteur.
Oui.
Et votre mère?
Elle, au début, elle ne travaillait pas, puis après, elle est devenue cuisinière dans les écoles.
Celle qui dirige tout.
On a ce sentiment-là, j'ai l'impression que mon père, il devait faire passer les messages quand même. Mais c'est vrai que lui, il travaille beaucoup, il est très fatigué, il va souvent se reposer, dormir. Au moment de l'adolescence, le chômage a frappé le Havre et là, il est chômeur, lui. Donc, il a quand même pris de l'âge et il essaie de nourrir sa famille comme il peut. Ma mère travaille, donc lui, c'est sans arrêt trouver du boulot, trouver des petites combines, des business pour amener de l'argent à la maison.
Un peu hyperactif aussi, hein. Il était le président du Club Dodo, l'association des Mauriciens du Havre.
Oui, ce truc-là a bien marché au tout début, puis pareil, c'est quand le chômage est arrivé, pareil, même ça a explosé, même ce truc qui nous rassemblait, on s'est tous isolés pour pouvoir s'en sortir, quoi.
Et les frères et sœurs, quelle ambiance du coup, plutôt solidaire vis-à-vis des situations.
Ouais, mais on est une famille assez unie avec nos problèmes et puis avec nos secrets, nos non-dits, tout ce qui fait une famille. Mais mes frères et sœurs sont plus grands que moi. Mon frère est vite parti faire ses études à Leeds et mes sœurs, quand elles ont eu leur bac, elles faisaient leurs études à Rouen, à Mont-Saint-Aignan. Je me souviens, elle rentrait le week-end, mais moi je passais beaucoup de temps, 15, 16, 17, j'étais seul quoi, à la maison, notamment, enfin, surtout la semaine. Et puis il y avait le foot, quoi. L'école et le foot, ça allait vite. Hein.
Le petit dernier, donc un peu plus gâté que les autres.
Ouais, carrément. je veux pas faire semblant. Hein. C'était marrant parce que je me souviens quand on était plus jeunes, un peu avant l'ado, par exemple, on est quatre, on faisait des tirages au sort pour mettre la table, faire la vaisselle, etc. Des trucs comme ça. Quoi. On partageait les paquets de gâteaux, par exemple. Et souvent, il y avait des paquets, s'il y en avait 18, ça tombait pas juste. Quoi. Donc là, moi, je grattais les deux derniers. Donc, c'est le genre de truc. Moi, je voulais aussi souvent l'anniversaire de mes frères et sœurs, je voulais un cadeau moi aussi, enfin, ce genre de truc.
Je vous cite un cadet d'une famille de Mauriciens du Havre qui a grandi dans son quartier au pied de son immeuble dans les effluves de curry et de fritures. Il y a pas mal d'odeurs qui reviennent à vous quand vous repensez à cette période-là.
Les odeurs, les couleurs. On avait acheté une maison à Pleumont, donc on était. Moi, je viens de Cocriauville, puis pas loin, il y a un autre quartier. Donc, quand ça s'est dégradé dans notre quartier à cause du chômage, on est parti, on a acheté une petite maison qu'on a retapée. La communauté mauricienne nous a vachement aidés. Tout le monde s'y est mis. On était les premiers comme ça à partir. Nous, c'est l'Inde chez nous, l'Inde et l'île Maurice. Donc, on avait une petite cuisine dans l'arrière-cour avec le jardin derrière où là, on pouvait, ma mère, elle pouvait se faire plaisir, quoi. Les épices, la friture. Et c'était un peu la fête quand même, quoi. C'était quand même cool, quoi.
Appelons-moi, donc c'est un quartier toujours du Havre.
Ouais.
Ouais. Vous voulez une petite carte postale du Havre, des sons venus du Havre, Vicage de Rasso ?
On m'a dit qu'on allait au Havre, on va au Havre.
Oui, on n'y arrivera jamais.
Un flanc sur le fleuve, un flanc sur le plateau, la tête contre la mer. Une ville qui, 30 ans après les bombes de la guerre, bouillonne dans la haine de soi. N'en finit pas de se trouver méconnaissable, laide, blousée, refaite de son histoire, du lustre de son passé, reconstruite, comme on le dit, d'une gueule cassée, passée par la chirurgie lourde, inconsolable donc.
Tu es venu au Havre parce qu'il y a des bateaux. T'as fait des bêtises et tu voudrais prendre de large, hein ? Changer de peau.
Une ville pilonnée, écrasée, labourée. Un vaste cimetière qui va devenir l'Eldorado des architectes des années 50. L'un d'entre eux s'appelle Auguste Perret. Il recoue le centre-ville, son fil, le béton, son aiguille, le modernisme, sa couleur, le rock'n'roll.
Le rock de Little Bob.
Ah oui, oui.
Figure emblématique du Havre.
Petit Bob, ouais. C'est quelqu'un qui est incroyable. Il venait au stade nous insulter.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Non, mais il criait. Le stadium, il est petit, le stade Jules Deschazeaux, et il gueulait et tout. Puis moi, je le croisais souvent dans les manifs et tout. Puis un jour, il m'avait dit, mais tu sais, il m'envoyait une lettre parce que je crie trop. Ils m'ont dit d'arrêter de crier, sinon ils m'invitaient plus. Puis lui, il a dit, mais c'est pas grave, je vais payer mon billet, mais moi, j'ai le droit de crier, quoi.
Il y a le rock donc de Little Bob. Il y a aussi l'autre rock, celui de Fleetwood Mac.
Ouais. Je dois avoir 13 ans, peut-être, un truc comme ça. C'était à Pleumont. Mon oncle, j'ai gagné au poker. On jouait un poker mauricien. Et le lendemain, il fallait qu'il rentre en Angleterre. Ils n'avaient plus d'argent. Ils m'ont braqué la thune que je leur avais pris.
Parce que vous avez gagné.
Voilà.
Et il ne l'a pas tellement apprécié.
Et en échange, il m'a filé une cassette, donc Rumours, l'album des Fleetwood Mac. Et c'est vrai que ça a changé ma vie parce que, au lieu de. Alors, je sais pas ce que j'allais écouter, mais en tout cas, j'ai commencé à écouter du rock'n'roll et en même temps à jouer au foot.
On écoute Dreams ?
Ouais.
Ça vous va ?
So
Dreams, titre phare du groupe Fleetwood Mac de l'album mythique Rumours, resté dans le hit parade britannique 478 semaines, soit quasiment 10 ans.
C'est beaucoup, hein.
Ah, c'est un record. Et parmi ces millions d'adolescents qui écoutaient en boucle cette chanson, il y a notre invité, Vikash Dorasso. Vous reconnaissez encore les paroles par cœur, là, vous chantonniez en écoutant la musique.
J'écoute de temps en temps, mais c'est vrai que ça ne s'est pas arrêté à Fleetwood Mac. Voilà, j'adore ce groupe comme d'autres. Mais c'est vrai que 15, 16 ans, j'arrive au lycée à Claude Monet. Alors donc je découvre alors les Smiths, après les Velvet, donc ça c'était plus vieux. Puis voilà, c'était parti sur l'indie pop de Manchester, avec les Stone Roses, les Pixies plus tard. Enfin tout c'est, j'ai même vu les Pixies et les Stone Roses en concert à l'Exocet à Rouen vers 18 ans. Mais ce qui était top, c'est que nous on était au lycée Claude Monet, donc c'est pas Cocriauville, parce que moi avec le foot je suis allé en quatrième, troisième, à Brossolette, un collège plus loin que celui de mon quartier, puis après au lycée. Et au lycée, c'est incroyable ce qu'ils avaient fait. Ils avaient décidé de faire venir des bus de tous les quartiers qui ramenaient, en fait, c'était la mixité complètement réussie. Des Noirs, des Arabes, les Bobos du... Enfin, les Bobos, ça n'existait pas à l'époque. Et voilà, on était tous dans ce collège, dans ce lycée. Mais voilà, il n'y avait pas... On n'était ni musulmans, ni cathos, ni rien. On était juste des jeunes... Et puis on était à l'école, c'était trop cool, quoi.
Comment vous expliquez que ça fonctionnait si bien que ça?
Je sais pas, c'est... Bah, on croyait en quelque chose.
Quoi?
Je sais pas, l'avenir, quoi, l'espoir. Hein. On vivait le moment avec aussi des perspectives. Aujourd'hui, quand t'es jeune à l'école, je veux dire, tes parents, ils sont déjà inquiets, quoi. Donc ils te le transmettent, l'inquiétude. Faut travailler pour trouver un boulot, on le sait, quoi. Mais quand y a pas de boulot... C'est chaud, quoi.
Vous êtes inquiet, vous?
Pour mes enfants, ça va aller. Voilà, j'ai sorti du quartier, moi. Hein. Donc, j'ai assez pour nourrir mes filles, pour les loger, pour les habiller, pour leur améliorer leur quotidien, le mien déjà, le leur aussi. Donc, voilà, il n'y aura peut-être pas de boulot pour elles tout de suite, mais elles ne manqueront pas, elles auront assez à bouffer, quoi.
Et vos parents, à vous, ils avaient cette inquiétude-là?
Ouais, évidemment, ouais. Après, ils l'ont eu un peu moins, puisque moi, je suis devenu footballeur, et mes frères et sœurs ont fait des grosses et longues études, tous les trois. Moi aussi, j'étais pas mal à l'école. Hein.
Oui, vous étiez assez doué, vous aimiez ça.
Et ouais, j'adorais ça.
Vous aimiez apprendre.
Il y a tout un truc, peut-être, qui est abîmé avec l'époque, hein, qui est peut-être bien, hein, sur tout ce qui est éphémère, jetable, instantané, tout de suite. Et bon, les réseaux sociaux, évidemment, nous... Moi, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, c'était à telle heure, à tel endroit, quoi. T'es pas là, t'es pas là, quoi. T'as raté ton rendez-vous.
Vous étiez ponctuel ?
Bah, j'ai dû en rater. Non. Nous, c'était rendez-vous entre telle heure à tel endroit. Mais tel endroit, c'était genre en ville. Mais c'était marrant parce que la ville du Havre, c'est bizarre, il n'y a pas de centre-ville, mais en même temps, on savait à peu près où on allait se croiser.
Oui,
tous.
C'est ça.
Mais quand même, j'ai raté des rendez-vous. Hein.
Ça laisse
j'ai même failli rater la mère de mes enfants. Hein.
Ah.
Ouais, qui a appelé chez moi, parce qu'elle était partie faire ses études, était revenue, on s'était quitté, on s'était perdu de vue, puis elle a appelé, et moi je le savais pas, quoi. Et chez moi, on m'a jamais dit, il y a une fille qui t'a appelé. Donc c'était marrant.
À l'adolescence, vous intégrez le centre de formation du Havre Athletic Club. Vous avez, c'est entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça.
Oui, ouais. 15 et 19.
Et là, on vous apprend la technique.
Bon, je l'apprenais tout. En fait, le foot, c'est s'entraîner tout le temps, beaucoup. Ouais. Plus ça va, plus tu t'entraînes.
De toute façon, vous faisiez ça depuis tout petit, voilà, dans les rues.
Ouais. Et donc après, bah.
Mais qu'est-ce que ça change alors, ce centre de formation?
Bah, déjà, tu es payé. Donc, je touchais 1000 francs à partir de 14 ans et demi, 15 ans, un truc comme ça. Mais moi, j'étais pas au centre de formation puisque j'étais dans ma ville, donc je rentrais tous les soirs chez moi. Et aussi parce que mes frères et sœurs voulaient que j'aie mon bac avant de pouvoir commencer. Mais finalement, j'ai quand même fait ma terminale au centre. J'ai eu mon bac par correspondance parce que les dirigeants en avaient assez de me payer pour aller au lycée. Donc, j'ai pas eu le bac que je voulais. Donc ça, c'est un vrai regret.
Et qu'est-ce que vous auriez voulu comme bac?
Bah, je voulais un bac C. Moi, j'étais en première S. À l'époque, c'était terminale S, quoi, scientifique. Et j'ai fait une première S et j'ai pas, par correspondance, je suis allé en terminale A1. C'était maths philo français. En scientifique, ça allait être trop dur par correspondance. Donc, je suis content. J'ai eu mon bac assez juste. Bon, je l'ai quand même eu, quoi. Puis après, je suis allé à la fac. Alors là, c'était n'importe
quoi. En économie?
Ouais, j'ai tout fait. J'ai tout fait toutes les premières années possibles. Mais je suis quand même passé en deuxième année, mais après j'ai arrêté.
Bon, de toute façon, vous pensiez foot, vous viviez foot, votre objectif, bah,
c'est vrai
rester
que,
foot.
C'est vrai que d'avoir le bac, j'ai toujours eu cette insécurité, de ne pas y arriver, la peur de ne pas être footballeur et donc la peur de ne pas, avoir de métier, quoi. Donc quand j'ai eu le bac, je me suis dit maintenant je peux y aller, si jamais ça ne marche pas, je pourrais revenir sur les études. Et ça m'a libéré, ça m'a vraiment libéré. Et puis après, j'ai été opéré deux fois, moi, à cette époque-là, à 16 ans et 17 ans, d'une pubalgie, une hernie discale. Donc j'ai très peu joué. J'ai vraiment pu avoir une adolescence, bon, en étant blessé, en ayant mal partout, mais quand même, je pouvais être avec mes copains, je pouvais vraiment vivre une adolescence plutôt assez normale, quoi, on va dire. Mais avec quand même cet objectif du football. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça.
Vous comptiez votre adolescence normale.
Oui.
Un centre de formation dans lequel vous pouvez rentrer chez vous le soir, c'est quand même important, ce qui change de
d'autres, j'étais dans ma vie.
D'autres footballeurs qui devaient
très
vivre
important.
Très loin de leur famille. Ce n'était pas votre cas.
Bah ouais. C'est aussi l'époque, hein, c'est les années 80, milieu fin. Donc les centres de formation ne sont pas encore développés. Et moi, la plupart des gens, des gamins de mon époque, au plus loin, ils viennent de Rouen, quoi. Ils viennent d'une heure du Havre, parfois Paris. Donc. Ça commence à se développer.
Et vous attendiez que les matchs du week-end?
Tout le temps, ça a été ma vie d'attendre le match, hein, de m'entraîner et puis d'attendre le match. Ouais, on s'amusait bien au centre de formation. J'avais mes potes, c'était mes potes aussi de toujours, beaucoup. Puis quelques-uns qui avaient l'extérieur, on s'amusait vraiment bien. On était moins nombreux, on était très proches.
Comment vous amusiez?
Non, mais on vivait ensemble, quoi. Que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, on sortait, on était au lycée ensemble.
C'était une bande.
Ouais, c'était une vraie bande. Et on est même allé jusqu'au pro ensemble, pour certains. Donc c'était top. Je suis encore copain avec certains. J'ai très peu d'amis d'enfance, finalement, quand j'y pense. Parce qu'à un moment, j'ai zappé mes copains d'enfance, mais certains qui m'intéressaient. Voilà, on n'a pas évolué pareil. Mais j'en ai quelques-uns et c'est quand même mortel, quoi. Parce qu'on a vraiment. Les mêmes souvenirs, les mêmes histoires communes.
Vous deviez avoir une certaine aura dans le quartier, non? La bande de garçons au centre de formation de football, futur footballeur peut-être?
Bah, je me pose des questions sur ce moment-là, parce que le fait de devenir un espoir du club, je suis en plus de la ville, je suis à l'école à la ville, je joue pour la ville. Enfin, oui, on commence à me connaître et en même temps, je fais partie de la ville. Il y a rien non plus d'extraordinaire. Et en même temps, ça m'isole, quoi. Quand j'arrive dans le quartier, je suis plus avec eux, quoi. Et moi, je peux pas faire des conneries, quoi. Moi, le soir, mes potes, ils venaient me chercher. Moi, j'ai même des copains qui venaient me chercher avec des voitures volées, quoi. Et je leur dis, mais non, je rentre pas dans ta voiture. Moi, j'ai autre chose à faire. Les conneries que mes potes faisaient, c'était des conneries qui t'emmenaient en prison. Et moi, j'avais pas envie de faire de conneries qui allaient m'emmener en prison. Donc moi, je faisais zéro connerie.
C'était une discipline que vous étiez fixé vous-même? Ou bien c'est quand même une autorité qui
Bah oui, l'autorité de mes parents, le cadre qu'on avait, voilà. C'est surtout que moi, j'ai pas envie de faire de conneries, quoi. J'ai pas envie d'aller en taule. J'avais autre chose à faire. Ça m'intéressait pas. Et c'est vrai que le football m'a toujours protégé dans mon quartier, dans ma vie de tous les... Mais quand t'arrives à 15, 16 ans, tu signes un contrat, donc t'es payé. Tout le monde le savait. Ça peut mettre des bas. J'ai changé de copain à ce moment-là. J'ai changé de copain. Mon quartier, j'y allais plus trop, quoi. C'était vraiment le lycée, le foot. C'est super, hein. Le foot m'a permis ça. Hein. Le foot m'a permis de traverser la rue. Hein, j'ai voyagé grâce au foot. Hein.
Vous quittiez votre quartier, vous voyez d'autres villes de France.
Ouais, hein. J'ai fini dans un pays moi qui n'était pas le mien. Hein. Je veux dire, j'ai fini en Italie, hein, à jouer pour Berlusconi, grâce au foot. Hein. J'ai fait les JO, j'ai fait la Coupe du Monde et tout ça avec tous les gens que j'aime beaucoup, avec la mère de mes enfants, mes amis, ma famille. À la finale de la Coupe du Monde, j'avais des copains d'enfance avec qui j'avais fait le lycée, qui étaient venus avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mes... Donc le foot, ouais, mais c'est fabuleux.
Bigage Dorasso, vous avez 14 ans en 1987. François Mitterrand est président de la République. Michel Platini vit ses derniers matchs de l'équipe de France. La tempête tropicale Clotilda ravage l'île Maurice. Et la population mondiale franchit le cap des 5 milliards. Et lorsque vos parents allumaient la télévision, vous entendiez peut-être ça.
Nous sommes ici dans ce que je pourrais appeler le poumon du futur tunnel sous la Manche, puisque c'est à partir d'ici que l'on attaque les couches de craie bleue pour percer non pas le tunnel, comme l'on a l'habitude de dire, mais les trois tunnels qui vont relier la France à l'Angleterre.
Voici en exclusivité le générique de la nouvelle chaîne M6, tel que vous pourrez le voir à partir de demain matin.
Eric Cantona devrait effectuer demain soir à Berlin ses grands débuts en équipe de France face à la RFA.
T'as vu ce que j'ai écrit? Je te le lis. Hein. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise, que les cris des désespérés se fassent entendre, même si personne ne peut comprendre, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de limite à la folie du temps, quand le bonheur nous surprend.
Elle désirait mourir sur scène, elle est morte seule, chez elle à Montmartre. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi, a-t-elle écrit avant d'absorber une dose mortelle de barbiturique. Yolanda Gigliotti, alias Dalida, fêtait cette année ses 30 ans de carrière. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande.
Canto, extra, c'est génial. Après, je suis pas un grand fan de Eric Cantona, il est quand même rigolo, mais.
Vous aviez des stars.
Maradona, carrément. Platini aussi, hein, d'une certaine manière. Après, l'équipe du Brésil 82-86, c'était extraordinaire, l'équipe de Télé Santana. Après, le tunnel sous la Manche, nous, ça nous a fait beaucoup de mal, quoi, au Havre, parce que le ferry faisait l'Angleterre, le Havre. Il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait des campings, on voyait tout le temps des Anglais passer. On croisait des voitures, c'était... Voilà, le Havre, c'est marrant, parce qu'en fait, on est enclavé, on est bloqué par la mer, et en même temps, c'est une ouverture, la mer. Donc c'est super bizarre. Moi je vais ouais, vendredi, j'adore ma vie.
Vous intéressez à l'actualité en tant qu'adolescent?
Oui. Je suis pas un mec qui lisais pas beaucoup, moi. Les journaux, c'est beaucoup la télé quand même.
Il y a une télé à la maison,
donc. M6, par exemple, j'ai beaucoup regardé, ouais, les clips. C'était incroyable.
C'était
quoi,
musical, voilà, essentiellement,
c'était,
évidemment.
C'était que de la musique, quoi. Ouais. C'était,
les clips. Donc,
je me souviens très très bien, ouais, d'écouter les clips en boucle. Ouais, ça va aussi avec la première chaîne IFI qu'on s'était achetée à la maison avec le CD. Et on avait acheté les CD, on avait acheté sur les magazines télé, il y avait des abonnements. Si tu achètes tant de CD et tout, mais tu te fais arnaquer parce que tu es obligé d'en acheter tous les mois sans arrêt.
Ah oui, après on s'engage et on en achetait trois par mois.
Une fois que tu as acheté ce que tu voulais, tu es là, oh là là, il n'y a plus rien, quoi. Donc tu as acheté le best-of de Balavoine, le best-of de Rhythmix. C'était ça qu'on avait acheté.
Est-ce qu'il y avait déjà une conscience citoyenne en vous à l'adolescence? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Vicage Dorasso, vous êtes quelqu'un de très engagé. C'était déjà le cas vers 15-16 ans?
Je ne pourrais pas dire à 15-16 ans, mais sauf que oui. Parce que, en fait, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai les gens qui m'entourent, on est tous de gauche. Je pense que mes filles seront de gauche, a priori. Je ne vois pas comment elles peuvent ne pas être de gauche, quoi. On ne leur a pas dit « soyez de gauche », mais nous, on est... Voilà,
ça ressemble quand même à une injonction, là. Hein, quand
ouais,
je vous
mais bon, je veux dire, une fois, ma fille, elle m'avait dit « mais Nicolas Sarkozy, on ne l'aime pas hein. ». J'ai dit « bah non, on ne l'aime pas, quoi ». Mais voilà, c'est pas moi qui lui ai dit « n'aime pas Nicolas Sarkozy ».
Vous lui avez donné quand même quelques indices.
Bah, elle passe sa vie avec nous, comme moi, je passais ma vie avec mes parents. Mon père était syndiqué. Les chantiers navals, en plus, les dockers du Havre, mon père n'était pas docker, mais c'était important, les syndicats. Bah, mon père, il était hyper politisé. Ouais. Et après, plus vieux, bah oui, les gens autour de moi sont tous de gauche, hein, pratiquement.
Vicage Dorasso, on se retrouve dans quelques
mais
instants.
Mais pas la gauche d'aujourd'hui, hein, la gauche très à gauche.
Bien plus à gauche.
Ouais, ouais.
Un peu de musique du Dominique A, Les Enfants de la Plage. On vous retrouve juste après, Vicage Dorasso.
lames agiles, brassant le sable, d'où sortent ces grappes enfiévrées, casseurs d'écume, souffle lié, là de sa grippe, et les autres en cercle, compte les points, les serre de près, la mort, le sable, le cercle éclate, et ils repartent le poing levé. Par où regarder, ils ont les yeux teintés de l'encre vive, de ce que l'enfance va lâcher, d'où sortent ces briseurs d'écume, mordant le sable et qui repartent le point de vue.
C'était Dominique A, enfant de la plage, sur France Inter.
On joue au foot, là. Là, il n'y a pas papa-maman, il n'y a pas de fric sur le terrain.
Ben si, si on veut, on peut l'acheter, l'arbitre.
Chambre d'ado, sur France Inter.
Non, Malo, non. L'honneur, ça s'achète pas. L'honneur, c'est dans le slip.
C'est Jeff Tuch. Bah oui, qui d'autre? Ça vous rappelle des souvenirs d'entraîneur, Vicage Dorasso?
Ouais, entraîneur. Non, non, mais moi, j'ai eu un entraîneur très dur, moi, Pierre Foissac, qui était... Il nous insultait, il frappait les joueurs et tout. Moi, il me frappait pas trop parce que j'étais le meilleur, donc mais c'est tranquille. Mais il fait partie de mon parcours. Après, j'en ai eu d'autres.
Adolescent, il y en avait un qui avait des méthodes plutôt hollandaises.
Ah oui, ça c'était Abdel Jadaoui, là, c'était marrant lui, parce que lui, ça a été mon entraîneur de centre de formation, donc pendant plusieurs années en troisième division, et c'est l'époque où en fait il n'y a pas encore la formation des entraîneurs, etc. C'est pas aussi précis, donc lui il avait pris la méthode d'Eindhoven et il arrivait, donc nous on faisait tous la méthode hollandaise, donc on s'appelait tous par des vannes, je sais pas quoi.
Vous étiez Van Dorasso.
Van Dorasso, c'était... Même, il y a eu après des vagues des joueurs qui venaient d'Afrique, donc une année c'était des Camerounais, après c'était Sénégalais, après il y avait des Russes qui venaient parfois, mais nous on était tarés, nous tous d'un quartier, donc les mecs on les appelait tous Igor. Alors si le mec était bon, lui, il y avait toujours un pote qui le giflait parce que c'était de la concurrence qui arrivait, quoi.
Adolescent, vous voulez déjà devenir footballeur, Vicage Dorasso, et vous faites tous les sacrifices qu'il faut pour ça. Déjà 14 ans, vous devez faire très attention à votre alimentation.
Bah, Alors oui, très tôt, nous les footballeurs, si on veut devenir un grand footballeur, il faut commencer à changer notre façon de faire. Oui, je ne peux pas sortir, il faut que je dorme tôt, il faut que je mange bien.
Pas de chocolat?
Non, c'est surtout que moi j'ai été blessé très vite. J'ai très vite eu des problèmes de pubalgie puis de dos. Donc comme j'étais un espoir du club, ils ont tout fait pour m'aider, pour me sauver. Donc je me suis retrouvé à aller chez un professeur qui faisait de l'homéopathie, le professeur Fauché, qui avait soigné... Platini, soi-disant, c'était le rebouteux, là. Donc je me suis tapé son traitement, ça n'a pas marché, j'ai quand même été opéré. Mmh. Et c'est bizarre, parce que la pubalgie, par exemple, c'est vraiment la maladie t'as rien, sauf tu peux pas jouer au foot. Mmh. Mais en fait, je peux vivre, je peux courir, je peux m'amuser avec mes potes, mais je peux pas jouer au foot. C'est juste super bizarre, quoi. Et moi, il n'y avait que le foot, donc j'accepte l'opération. Et c'est...
Douloureuse opération?
Ouais, j'étais à Colmar, c'était le professeur Jäger, je me suis retrouvé à 16 ans, tout seul, et j'ai eu 21 agrafes d'un côté, 19... Quand ils ont enlevé les pansements, j'ai vu les agrafes, je me suis évanoui. J'ai deux fermetures éclair. Et c'était super dur. J'étais loin. Et alors là, ça a été encore parce que je m'en suis remis assez vite. Enfin, j'en suis remis. L'année d'après, je me fais opérer du dos. J'ai une hernie discale. Et là, je suis effondré. Parce que
et là, vous avez 17 ans aussi.
J'ai 17 ans. Jeune, ouais. Et là, j'en peux plus. Et je prends du poids. Puis j'ai un an de plus. Donc moi, je me fais opérer. Et je profite de ça pour être un vrai adolescent. Là. Je sortais. Je voyais mes potes. Voilà. Là, j'ai coupé avec le foot. Sauf que quand je suis revenu au foot, bah ouais, j'étais plus un footballeur, quoi. Je ressemblais plus du tout à un jeune footballeur. Donc il a fallu tout relancer, se remettre en mouvement, quoi.
Bah 17 ans, ça va vite.
Ça va vite, mais les autres, ils avancent. Hein. Les autres qui ont 17 ans, ils sont en train de s'entraîner. Si tu reviens pas vite, bah c'est un autre qui passe à ta place, quoi. Donc faut revenir vite, faut reprendre sa place, mais faut en être capable.
Il faut apprendre aussi à vivre avec la douleur.
Ouais, tout ça va avec. Hein. Moi footballeur, j'ai passé ma vie à jouer avec la douleur, donc je sais jouer avec la douleur et j'aime ça finalement. C'est pas, je suis même allé voir un médecin pour lui dire que j'avais mal nulle part un jour, donc que je m'inquiétais. Mais donc après tout ça, c'est pareil. 17 ans, 18 ans, je me souviens, à 18 ans, je joue en 3e division, donc l'équipe réserve, et je viens de passer 2 ans sans jouer, et j'avais les larmes aux yeux à la fin, personne ne l'a vu, je me dis, bah, c'est enfin, quoi, je vais y arriver, ça peut le faire. Et ça, oui, c'était parti, quoi, j'étais de nouveau un espoir du club. Ouais.
Et il n'y a que ça dans votre vie à ce moment-là, que le football ? Il n'y a pas de place pour ces trucs d'ado, de partir à la plage avec des copains, des copines, draguer les filles, tout ça?
Non, parce que la saison s'arrête fin mai, l'école finit à fin juin, et moi, je reprends le foot à mi-juillet. Donc en fait, je ne pars pas en vacances, je ne suis jamais parti en vacances de ma vie, une seule fois à l'île Maurice.
Mais il y a la plage, là, à 15 minutes de chez vous.
Ouais, mais c'est pas notre habitude, nous, on vient de Cocry. J'allais pêcher avec un copain... On allait pêcher, mais j'avais peur de mettre les vers, c'est lui qui me les mettait pour. Mais j'aimais bien ça, ouais.
La première fois que vous allez à la plage, vous avez 15 ans.
15 ans à peu près, ouais. Ouais. Vraiment pour me promener à la plage, pas avec mes parents pour prendre le ferry.
Bah, je vous propose qu'on s'y pose quelques instants à cette plage du Havre.
Maintenant, j'y vais tout le temps.
Vous y allez tout le temps maintenant ?
Tout le temps.
Ah, babouchka, 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 ya, ya. Hey, salut Vikash ! Tiens, c'est la première fois que je te vois ici. Moi, je viens tous les week-ends. C'est moins beau qu'à Étretat, mais c'est chez nous. On m'a dit que les falaises d'Étretat, ce sont les impressionnistes qui les ont dessinées. Ici aussi, au Havre, ils sont déjà venus. Je sais pas qui c'est vraiment les impressionnistes, mais en tout cas, ils ont bien réussi leur coup. Les plages de chez nous, elles sont impressionnistes. Tu vas souvent en Angleterre ? Il paraît que t'as de la famille là-bas. Ça doit être dingue. Et puis, ils savent faire du rock là-bas. Hein. Les Smiths... Moi, j'adore Kate Bush. Elle est anglaise et elle a une classe d'enfer. Mais qu'est-ce que je raconte ? T'es bien trop petit pour tout ça. Avec tes bagues et ta petite moustache en plume d'oie. Bon, ben moi je vais me baigner. Salut.
Kate Bush, non mais le clip où elle danse sur la falaise là, ma fille, elle, quand je lui ai fait écouter cette chanson, elle regardait en boucle comme ça. C'est vrai que j'étais un peu amoureux d'elle.
De Kate Bush.
Ouais, tout le monde hein, à l'époque. C'est une danseuse hein, en plus. Hein. Mm-hmm. Donc ouais, j'adorais. Mais c'est vrai que le Havre, l'autre fois. Là, j'y vais tout le temps, j'y suis allé récemment. Il fait beau, il fait pas beau, ça change rien finalement. Les gens, ils sont, ouais, il pleut tout le temps, c'est faux. Et on est au bord de la mer, on prend le ciré, on voit les nuages passer, il y a un cargo qui passe et à côté, il y a un ferry ou alors il y a carrément des bateaux de croisière. Et c'est ça qui est magique. J'ai vécu à Milan et au bout d'un moment, je me sentais mal. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, il y avait pas d'eau, quoi. En tout cas, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai besoin de ça, hein, j'avoue que... En plus, nous, mes parents viennent du Nil.
Et les filles, Vikash Dorasso, quel adolescent vous étiez avec les filles ?
J'ai croisé la mère de mes enfants au collège. On est sortis ensemble au lycée, donc là, ouais, on est en plein dedans. Hein. Je sais pas si ça m'intéressait plus que ça à 15-16 ans, mais quand même, quoi. Je me souviens, j'étais... sorti avec une fille qui s'appelait Virginie Lecroc en seconde. Elle était super jolie. Et c'est ce truc-là qui a fait que j'ai voulu enlever mon appareil dentaire et parce que ça n'avait pas duré assez longtemps. Et alors, je voulais que ça se reproduise. Je me suis dit, mais ouais, mais je suis trop moche là avec ce duvet et tout. Et mon père, il m'avait dit, au moment où je me suis rasé la moustache, il m'a dit, mais tu sais, c'est parti pour la vie après. Hein. Je dis, mais non, c'est bon, c'est bon. J'avais des copains à la même époque. Eux, ils se rasaient pour en avoir de la moustache.
Bah oui, oui.
C'était n'importe quoi. Ouais, Virginie Le Croc, ouais. Bah ouais, ouais, ça fait partie de la vie. Mais moi, quand j'étais au lycée, alors j'aimais beaucoup l'école, parce que quand j'étais en cours, j'ai eu de la chance, parce que quand je suis arrivé du collège où j'étais en classe études, je suis arrivé au lycée et je me suis retrouvé tout seul, moi. Tous mes copains, ils étaient à plusieurs footballeurs dans la même classe. Ils ont tous raté leurs études. Moi, j'étais tout seul. Donc moi, j'avais qu'un truc à faire, c'était écouter le prof. Et j'aimais bien écouter le prof. Et j'aimais pas trop la cour de récréation, tout ça et tout, parce que
c'était timide.
Ouais. Et c'est des moments où faut être populaire, quoi. Faut montrer qu'on a des potes et tout, comme à la cantine, tu vois. T'as envie d'avoir une place quelque part. Et moi, j'avais envie plutôt d'être tout seul et tranquille. Mais bon, voilà, je faisais comme les autres. Hein. J'essayais d'avoir des potes hein, et de montrer que j'étais pas tout seul. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on n'est jamais seul, quoi. La plupart des gens, ils sont jamais tout seuls. Ils sont toujours avec leur téléphone portable. Et je les regarde. Hein, parfois, ils font mine de ils font rien sur leur téléphone. Hein. Mais c'est vrai que avant, t'étais seul, quoi. Si tu fumes pas de clope, en plus. Dans la cour de récréation, si t'es tout seul, on le voit. Hein. Tu peux pas faire semblant de sortir ton téléphone portable. Donc,
donc vous aimiez vraiment pas ça du tout, l'idée de devoir être dehors avec les autres.
C'était un coup de flip. De faire la bise aux gens. Ouaf, c'est 4 bises. Pouah, le matin, moi je traçais, j'avais pas du tout envie de ça, quoi.
Mais vous deviez être hyper populaire.
Bah ouais, je sais pas. Je faisais quand même partie de deux.
Bah oui.
Mais après, quand j'étais au lycée, ouais, je jouais en troisième division. En plus, le stade était collé à mon lycée. Hein.
Oui, vous n'avez pas gagné en confiance quand même avec le football.
Le foot, ça me permettait d'être tranquille, quoi. Je suis au foot, je suis peinard, quoi. J'ai pas besoin d'être populaire avec vous, quoi. Moi, j'ai le foot qui m'a protégé de mon quartier pour pas faire les conneries et pour qu'on me laisse tranquille aussi dans mon quartier et pour qu'on me laisse tranquille aussi au lycée. Mes potes, c'est vrai, par exemple, quand ils me disaient, ouais, il y a une teuf samedi, je leur disais, mais non, moi, j'ai match demain, et je leur dis, il y a une teuf la semaine prochaine aussi. Et ils insistaient pas. Ils me disaient pas, ouais, mais Vika, je viens. Ils me laissaient parce qu'ils savaient que j'étais quand même hyper focus sur le foot.
Donc les premières expériences d'alcool, de joint, ouais, tout ça, peu, vous avez pas tellement connu
non,
à l'adolescence
joint, non, jamais, mais alcool, ouais, vers 17-18 ans, assez tard. Les filles, c'est assez tard aussi. Mais c'est peut-être pas plus tard que d'autres. Hein. De toute façon, sur l'échelle d'une vie, ça joue à un an. Allez, à cette époque-là, c'est beaucoup. Mais finalement, à l'arrivée...
Oui, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Vikash Dorasso, restez avec nous. On écoute William Zivilane, Uncle Bill Goes a Fight.
Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes. Big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. And twilight goes with nimble toes through crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide, cause so much in this world is fear and money, power and control and pride. We'll be right back.
Uncle Bill Goes Afire, William Zivilane. Vous écoutez Chambre d'ado avec l'ancien joueur de football Vicage Dorasso, adolescent à la fin des années 80. Le premier Macintosh apparaît, nous serons bientôt tous interconnectés. Michael Jackson est le roi de la pop, on danse, mini-jupe et épaulettes. Mais l'insouciance semble loin derrière, car on ne fait plus l'amour sans avoir peur.
En quelques années, le sida est devenu un problème majeur de santé publique. Cette épidémie a pris une dimension mondiale. Les chiffres sont angoissants. Il y a actuellement 10 millions de personnes séropositives dans le monde, 250 000 en France. Il s'agit donc aujourd'hui d'informer, mais surtout de convaincre les gens qu'en adoptant une conduite responsable, ils se protégeront et arrêteront la propagation du sida dans l'attente d'un traitement efficace et l'hypothétique découverte d'un vaccin.
Attention, il y a danger. Le sida, ce n'est pas une maladie comme les autres, c'est une maladie mortelle. Il faut absolument s'en prévenir.
Ouais. Nous, c'est le pire moment de l'histoire de l'humanité pour découvrir le sexe. Parce que tu découvres ça et tu... Enfin, en même temps, tu dis si jamais... Enfin, tu peux mourir, quoi. La première fois, moi, après, j'ai...
Oui, on nous dit faire l'amour peut amener à la mort.
J'avais mis un préservatif. Déjà, il faut l'acheter, le préservatif. Pour rentrer dans une pharmacie, alors tu trouves tous les stratagèmes possibles et imaginables parce que t'as tellement honte, quoi.
Vous vous souvenez de ce moment précis?
Bah, tu demandes à un pote, enfin non, pas un pote, parce qu'il a honte lui aussi, mais comme c'est pas pour lui, c'est pour toi, peut-être qu'il va le faire, ou alors tu demandes à quelqu'un à l'entrée de la pharmacie parce que t'as des petites vieilles qui sont là, t'as des... C'est super bizarre, quoi. Et surtout, faire l'amour, c'est pas super, c'est mourir, quoi, peut-être. C'est pas du tout cool, quoi. Et j'avais été malade, je me souviens, quelques temps après. Alors tout de suite, j'ai cru que j'avais le sida, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre le sexe dans les années 90, ouais, dans le début des années 90.
Ouais. Bah, vous nous avez décrit jusqu'à maintenant une adolescence assez insouciante, mais c'est une époque qui n'était pas du tout insouciante.
Bah, moi, je ne suis pas insouciant. Hein.
Non, vous disiez j'ai une adolescence normale, enfin, ce qui était vrai.
Ouais,
mais moi, j'ai déjà...
En fait, nous, les footballeurs... On est forcément immature et mature très vite, quoi. On n'a pas le choix. À 19 ans, moi, j'ai un salaire. Je vais prendre un appartement. Je vais avoir une copine. Puis après, à 22 ans, je vais partir. Enfin, je suis déjà plein de trucs que d'autres font très tard. Et moi, ça, je le fais à 17 ans. J'étais capitaine de l'équipe de réserve. Déjà, tu rentres sur Internet, t'es capitaine de ton équipe, quoi. Oui, j'étais aussi important dans la ville. Quand à 19 ans, je joue mon premier match en première division. Ouais, on n'est pas à l'époque des selfies, on signe pas des autographes avec Vicage Dorasso, qui est un mec de la ville, mais quand même, tout le monde sait qui je suis, ouais, c'est une petite ville. Donc ouais, l'insouciance, je voulais être insouciant, je voulais avoir cette vie normale, c'était pas facile, j'ai quand même réussi un petit peu. Mais oui, j'étais programmé dans ma tête pour être footballeur, je voulais ça et... Ouais. Je me demande aujourd'hui, tous ces gamins à 19 ans, Mbappé, là, qui... C'est quoi sa vie, quoi? Alors... Est-ce qu'il passe à côté de sa vie ou il vit une autre vie, quoi? Parce qu'à 19 ans, normalement, on est avec ses copains en train de faire des conneries, quoi. J'ai un petit peu fait ça, moi, donc c'est pour ça que je suis content. Et en même temps, ouais, j'étais un peu déjà dirigé vers autre chose, quoi. À l'âge où lui gagne la Coupe du Monde, moi, j'étais chez ma mère qui me faisait encore mon lit, quoi. C'est quand même fou, quoi.
Il a 19 ans, il fait rêver d'autres adolescents.
C'est n'importe quoi. À 19 ans, là, il a fait le truc que tous les footballeurs rêvent de faire et ne feront jamais. Et il le fait, il a 19 ans, quoi. Ça va être quoi sa vie, quoi. Ça peut être super pour lui, hein, j'espère.
En tout cas, il va faire naître des vocations, lui et les autres. On va saluer les jeunes des cités, on va saluer la France multiculturelle, c'est au football que l'on voit ça, non?
Bah, en tout cas, nous, je me souviens, on va jouer en Bretagne, à Vannes. On arrive, une équipe de Noirs et d'Arabes. Et on se retrouve au milieu des Blancs à la campagne. Mais on était morts de rire, quoi. On a pris le car et tout. Partout, on s'arrêtait. Il y avait nous. Enfin, voilà, avec cette bande du Havre, de quartier, qui arrive et qui va jouer au foot au milieu des Blancs. Mais c'était hallucinant, l'image. C'était ça, ma vie aussi, hein. C'était à partir de ses 17 ans, je commence à jouer en cadets nationaux. On part à chaque fois. Et ça ressemble à cette Pogba et compagnie qui était à l'Élysée avec Macron, quoi. Malheureusement, cette couleur qu'a la France, elle l'a que dans le sport et dans le foot. Elle l'a pas beaucoup ailleurs, hein, et ça avance pas beaucoup. Et on fait tout pour que ça reste là, quoi. Tant mieux, hein. On les aime bien, ces petits Noirs et ces petits Arabes, quand ils jouent au foot et quand ils nous dérangent pas dans notre business, quoi. C'est comme ça, ça change pas beaucoup, ça régresse. Je suis plutôt inquiet, hein, moi, parce que 4 ans plus tard, après la Coupe du Monde 98, c'était Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles, et l'année dernière, c'était sa fille qui y était. Voilà, c'est vraiment ça l'image que j'ai. C'est vraiment ouais, elle a une belle couleur, cette France, mais que dans le foot, hein, pas ailleurs.
Vous avez une colère, une indignation qui est née certainement à votre adolescence. Il y a encore d'autres traces de vos 15 ans en vous ?
Ouais. Ouais. J'ai une ado à la maison, moi. Hein. J'ai une adolescente à la maison. Hein. Donc là, je suis vraiment dans tout ce que je me disais ne pas faire. Ouais, mais moi, à ton époque, c'était comme ça. Moi, j'avais pas... Je m'entends parler, je me dis, mais non.
Ça y est, vous êtes
j'avais
devenu...
prévu de ne pas le dire. Ouais. Et c'est vrai que elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle a envie de s'émanciper, elle a envie de se libérer, elle a envie de faire... Moi, je me souviens, je sortais le soir en cachette, j'habitais dans un pavillon. Je savais que le lendemain, par exemple, j'avais pas entraînement. Et mes parents, le lendemain, qui m'avaient attrapé à sortir, je disais « Ouais, mais non, mais j'arrête le foot, je vais pas m'entraîner. » En fait, j'avais pas entraînement, je le savais. Je savais qu'ils allaient flipper et ils allaient me donner un peu de liberté pour des trucs. On en rigolait, j'étais pas en bagarre complète avec mes parents. Mais c'est l'âge où, oui, à 16-17 ans, on se cherche et on essaie d'aller de se brûler aussi un peu.
J'ai l'impression que c'est la même adolescence, celle que vous avez vécue vous et celle que peut vivre votre fille, par exemple.
En tout cas, le téléphone portable, ça change quand même beaucoup de choses. Mais je crois qu'ils découvrent quand même plein de choses comme nous. Hein. Mais oui, ils ont tout sur le téléphone portable. Ils n'ont plus aucun problème avec le vide. Nous, on avait du vide, j'avais de l'ennui, j'avais des temps morts. J'étais chez moi, qu'est-ce que je fais Par exemple, j'allais à l'école, je rentrais, c'était fini, quoi. Eux, ça continue sur le téléphone, les groupes Snapchat, etc. Moi, j'avais une vraie coupure après l'école, comme tous ceux de cette époque-là. Les réseaux sociaux, les rendez-vous, on en parlait tout à l'heure. J'ai rendez-vous à telle heure, tel endroit. Aujourd'hui, on s'appelle, t'es où ? Tout ça, ça change quand même beaucoup de choses. Et ça nous prive d'un truc, déjà, le fait de se voir, d'être ensemble, vraiment, réellement. Eux, ils ont l'impression d'être tout le temps ensemble, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Mais quand même, ma fille, là, je me rends compte qu'elle elle a besoin d'aller voir les autres, quoi. C'est pas que de sa chambre. Non, elle a besoin de sortir, d'être avec ses copines, d'être... Et après, bon, elle essaie de bien travailler à l'école.
Bon, il faut qu'elle travaille bien à l'école et qu'elle soit de gauche. Hein. C'est à peu près ça les seules consignes paternelles, si j'ai bien compris.
Bah oui, c'est très étrange parce que j'aurais plutôt envie de lui dire « Sois heureuse, sois libre, fais ce que tu veux. » Et en même temps, voilà, nous, on est ses parents, on va s'inquiéter pour des choses qui sont très basiques. Hein, qu'elle ait assez à bouffer, qu'elle ait un toit, qu'elle ait un travail, qu'elle ait une copine ou un copain. Voilà. Et on va s'inquiéter comme mes parents se sont inquiétés. Je me rends compte aujourd'hui, ma mère, elle s'inquiète toujours pour moi aujourd'hui. Hein, c'est normal. On va passer notre vie à ça, s'inquiéter pour nos enfants en essayant qu'ils soient le plus heureux possible.
Vicage Dorasso, merci d'avoir ouvert votre chambre d'ado pour nous. Je rappelle que votre livre « Comme ses pieds » est sorti en poche aux éditions Point. Il y a aussi ce livre hein, coloré de Tatane, « 50 idées pour changer le foot ». C'est publié aux éditions Gallimard. Belle journée.
Merci à vous.
Et merci à l'équipe de Chambre d'ado, Sarah Masson, attachée de production. C'est elle aussi que vous avez entendu à la plage chanter sur Kate Bush. Merci Alicia Vulot, réalisatrice, Thierry Dupin, à la programmation musicale, Pierre Caceres à la documentation et à Stéphanie Place, Delina, ah oui, et Rémi Sitiaga bien sûr à la technique. On se retrouve dimanche prochain, 10h, en compagnie de la danseuse et chorégraphe Pietra Gala.